Bienvenue dans J'ai pas compris, le podcast qui parle de trucs qu'on n'a pas vraiment compris avec des gens qui les ont quand même plus compris que nous, ou que moi en tout cas.
Non. De quoi ? C'est pas très très clair. Fais répéter l'action. Pardon. Ah oui, d'accord.
Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode crousty. J'ai pas compris, les influenceurs. Et pour répondre à mes questions, je suis entourée de deux personnes qui m'influencent beaucoup trop dans mon quotidien, puisque l'une a réussi à me faire télécharger TikTok et l'autre à me faire passer beaucoup trop de temps sur Twitch. Il y a donc Sophie, Social Media Manager. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et Julia, Head of Influence. Bonjour Julia.
Hello Nelouen.
Alors évidemment, le titre de l'épisode est un peu putaclic, hein, parce que les influenceurs, j'ai quand même compris qu'hormis les anciens de la télé-réalité partis s'installer à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, pour beaucoup, ce sont des créateurs ou créatrices de contenu sur les réseaux sociaux qui ont besoin des marques pour se rémunérer. Si je résume grossièrement pour mes parents qui écoutent ce podcast, hein, évidemment. Et franchement, j'ai voulu bosser pour cette intro, je vous le dis. J'avais même commencé à écrire un truc sur le fait que Socrate, c'était peut-être un des premiers influenceurs, et blablabli, et blablablou. Et puis en fait, en voulant faire mes recherches, je suis tombée dans Internet, quoi. Je me suis retrouvée à regarder une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Pascal, le grand frère, recadre les influenceurs ». Et c'est à ce moment-là où je me suis dit « Non, cessez à tout jamais, c'est trop ». Donc me revoilà à écrire cette introduction de podcast entre Socrate, Pascal le grand frère et surtout le néant, parce que je n'ai rien. Et puis est venue une idée, qui me fait dire que je suis vraiment partie en vrille, mais bon, ça c'est ma vie. Et si on testait la capacité d'influence directement dans cette intro ? Alors voilà la commu, puisqu'on ne vous l'a jamais encore demandé, est-ce que vous pouvez aller, s'il vous plaît, mettre 5 étoiles au podcast J'ai pas compris, sur votre plateforme d'écoute préférée ? Merci beaucoup. Bon, là, c'était même pas d'influence, c'était un ordre sous couvert de politesse. Comme quoi, savoir influencer, c'est vrai que c'est peut-être un métier. Alors avant de voir le compteur de notes s'envoler grâce à vous, chers auditeurs et auditrices, dites-moi Sophie ou Julia, comment est-ce qu'un influenceur, il sait qu'il a bien influencé ? Parce que moi, je vais pouvoir aller voir les notes, donc je pourrais comparer l'avant de l'après l'épisode, mais eux, ils font comment en vrai ?
Ça va beaucoup dépendre déjà de la campagne, du profil du créateur. Mais si on se prend, par exemple, un exemple lambda que je vais avoir en tête, c'est Léna. Avec son concept.
Léna Situations. Donc.
Yes, tout à fait. Léna, avec justement son concept d'hôtel Mafouf, yes. Où tous les 6 mois, elle va présenter un nouvel endroit où on va pouvoir justement retrouver des partenariats avec d'autres marques. On va avoir aussi des vêtements qui vont être floqués. Tu vas avoir en fait toute sa communauté qui va arriver d'un coup.
Ah
une
ouais.
Énorme file, même sous la pluie. Ils bravent tout, hein. Tempête,
d'accord,
neige,
ouais.
Peu importe, il n'y a pas de problème, même la grève, tout va bien. Donc c'est là où tu vas avoir en fait l'impact en tant que créateur que tu vas pouvoir avoir. Donc ça va être vraiment un événement, finalement bah, ça va être du réel,
ouais.
Alors qu'on se parle de créateurs de contenu qui sont sur Internet.
Oui, parce que pour resituer du coup Léna Situations anciennement, mais aujourd'hui Léna Mafouf de son nom de famille, enfin je crois que c'est son nom, c'est ça,
mm-hmm.
Et qui a 4,5 millions d'abonnés sur Instagram, beaucoup de, un peu de lifestyle, donc elle montre un peu sa vie, de la mode et tout.
Ouais,
surtout, et en effet, là aujourd'hui, elle a des partenariats avec beaucoup de grandes marques.
Mm.
Et notamment, donc tu disais, la création de son hôtel. C'est un hôtel ?
Oui, c'est un hôtel, mais c'est une forme de concept qu'elle va justement repenser tous les 6 mois. Donc tu vas avoir le chalet Mafouf en hiver,
okay.
Tu vas avoir la piscine Mafouf quand tu as les beaux jours, etc. Et à chaque fois, en fait, tu vois toute sa communauté qui est au rendez-vous, ou justement aussi, tu le vois sur ses vidéos YouTube, quand elle fait toute la préparation en amont et qu'après elle le poste pour voir justement jusqu'au jour J où sera ouvert le nouveau concept. Tu vois les perfs, en fait, sur la vidéo qui sont juste incroyables. Et après, tu vas avoir de toute façon les mesures des perfs. Nous, en tant qu'agence, on va plus aller décortiquer.
Ouais.
On adore ça. Ça va être le nombre de vues, taux de complétion.
C'est quoi taux de complétion ?
C'est le pourcentage où justement ton user va regarder la vidéo. C'est ton temps.
Est-ce
qu'il va regarder 30 secondes, une minute,
d'accord.
Quart d'heure.
Ah oui, un bon taux de complétion, c'est quelqu'un qui a regardé longuement la vidéo. Oui,
tout à fait.
Ok. Tu voulais dire, Sophie ?
Ce qui est intéressant aussi avec Léna, c'est que son hôtel Mafouf, c'est des vêtements.
Ouais.
Et c'est un site qui explose et qui demande énormément de travail. C'est des collections à chaque fois qu'elle va sortir un pop-up qui sont vendues dans la demi-heure. C'est tout un marché aussi autour. Elle était influenceuse. On a pu la voir commencer comme ça. Mais depuis, elle est créatrice de mode, presque.
Ouais.
mode qui peut être vu différemment par certaines personnes. Hein. En effet, on est sur des fois des vêtements qui peuvent ne pas vouloir être portés par tout le monde. Cependant, elle vend. Et elle vend bien, et des produits qui sont relativement bien sourcés. Donc ça, on va sûrement s'en parler lors du podcast, mais elle essaye de faire du good dans tout ce qu'elle fait, dans une certaine mesure. J'aime beaucoup Léna, ça se voit. on ne se connaît pas, hein, évidemment.
On aimerait bien.
mais il y a quelque chose d'hyper positif dans Léna. C'est vrai que c'est bien d'en parler comme un premier exemple. Maintenant, c'est pas...
Et surtout, on se parle d'une des plus connues, en tout cas.
Ça fait partie des plus anciens du pool qu'on démarrait il y a 10-15 ans.
Du game de l'influence,
C'est ça.
Mais aujourd'hui, c'est qui un peu les influenceurs, les influenceuses dans le top, quoi? Ça dépend aussi des réseaux, non? J'avais cru voir, justement, en faisant mes recherches qui se sont vite abandonnées, mais que, par exemple, sur TikTok, c'était Léa et lui, c'est ça?
Alors, Léa et lui, elle explose tout. Hein.
Oui.
Mais Léa et lui, elle est très peu connue en France.
Mais pourtant, c'est une Française, c'est ça?
Elle est Française.
Elle est Française, elle vient dans un petit village, je ne sais plus où, je crois que c'est.
Mais elle a commencé à
dire une connerie, mais
elle a commencé justement très jeune, je crois, en mettant des danses et tout. Et sauf qu'elle a eu l'intelligence de le faire en anglais, qui fait qu'elle a tout de suite touché une communauté internationale, c'est ça.
C'est ça. Elle a été repérée direct, et puis après, hop, il y a une agence qui a vu le potentiel, qui a dit très intéressant ce profil.
Ouais, mais ça c'est des gens. Ça, une marque, elle pour faire un partenariat avec Léna Mafouf, par exemple, ça coûte une fortune, quoi, non? Ça coûte combien? Parlons bise un peu. Parlons flouze. Parlons money. Parlons ce que je n'aurais jamais.
Ça, c'est sûr. Bon, à moins de devenir influenceur ou président de la République, je ne suis pas sûre qu'on puisse arriver à ce type de rémunération. Mais en fait, c'est assez compliqué de donner une rémunération. Déjà parce que ça évolue très, très vite.
Ouais.
Ça évolue selon la marque, ça évolue selon la plateforme et ça évolue selon le format.
En plus de ça, ça dépend si c'est une collaboration qui va être juste en one shot. Ou si ça va être sur le long terme, c'est-à-dire où Léna, si on reprend l'exemple, va être ambassadrice à l'année.
Ouais.
Dans ces cas-là, le cachet sera pas du tout le même. Ça dépend aussi si tu vas avoir de l'affiliation, des codes promo qui vont s'ajouter à ça. Est-ce que ça va être une co-création, c'est-à-dire la marque qui dit qu'elle va faire appel justement à Léna pour créer un nouveau produit, un nouveau vêtement, ou alors c'est juste... pour le dire très grossièrement, Léna qui va faire Femme Sandwich et dire « Coucou les gars, j'ai un nouveau livre, un nouveau rouge à lèvres à vous présenter, voici mon code promo ».
Oui, et donc t'es payé et en plus t'as les produits, enfin, c'est des avantages, des voyages, des choses comme ça en fonction
de tout. Exactement, il y a un coût caché d'influence parce qu'il y a ce cachet dont on parle qui est un peu souvent la question, tout le monde veut connaître un peu le prix de l'influenceur.
Évidemment, c'était une de mes premières questions.
Et il y a ce prix caché du portage qui se rapporte aussi à tout ce qui se faisait en relation presse avant, en fait, où on allait chercher des gens pour, on leur offrait des cadeaux et ils nous faisaient des articles, des publis postage. Et il y a aussi toute la partie cachée de, si on fait un code promo pour la marque, c'est un prix.
Oui, parce que, en fait, ça, quand ils disent, donc souvent, là, on voit plus des influenceurs ou des influenceuses micro, entre guillemets, dire, en utilisant mon code, j'adore Nolwenn. Super le code.
J'adore Nolwenn 7.
C'est ça. Vous avez moins 20%. Donc là, pareil, la marque, finalement, elle peut dire, elle peut voir, elle peut suivre clairement ce que lui a rapporté l'influenceur ou l'influenceuse, puisqu'on voit le nombre de gens qui ont utilisé le code, quoi.
Ouais.
Ok. Très bien.
Et surtout, maintenant, je vais un peu. Taper du poing, mais deux termes qui sont bien différenciés et qui sont importants justement pour les influenceurs. C'est aujourd'hui se dire qu'on a les influenceurs et on a les créateurs de contenu.
Ouais.
Et du coup, vraiment, ceux qui sont créateurs de contenu, ça les supporte un peu qu'on les appelle des influenceurs. Parce que les influenceurs, ils sont plutôt rangés dans la catégorie télé-réalité.
Oui, c'est ceux dont je parlais un peu dans l'intro, ceux qui sont partis à Dubaï. Voilà. Mais c'est un peu de l'hypocrisie, entre guillemets, parce que tu fais de la création de contenu, même de super qualité et tout machin. À un moment, pour te rémunérer, puisque les plateformes, et on va en parler, je pense que ça va être un peu ma question, c'est un peu ma question sous-jacente, mais puisque les plateformes ne te rémunèrent pas directement ou pas aussi bien, je crois, qu'il y a quelques années, t'es obligé de faire des partenariats avec des marques, et donc, en fait, tu deviens influenceur, même si t'es créateur de contenu, enfin, puisque tu influences les gens à acheter des produits et tout ça.
C'est sûr que t'as la même base pour l'influence et les créateurs, c'est je vais utiliser ma notoriété pour influencer ou pour créer un besoin auprès d'une audience.
Ouais.
Je veux dire, demain, Nolwenn, t'as besoin d'un t-shirt ou
j'ai
une
besoin
basket.
D'un t-shirt, Julia. Oui, c'est exactement ça.
Bah voilà, je vais venir, moi, t'influencer et te dire, oh, attention, il faut absolument que tu achètes ce t-shirt.
Oui.
Mais tu vas avoir la casquette des créateurs de contenu où eux vont être beaucoup plus couteau suisse. C'est-à-dire qu'il y aura une approche où ils vont faire le script, ils vont trouver les lieux de tournage, ils vont faire appel à une équipe de prod, régie, etc. Il y aura un monteur qui sera là. Il y aura vraiment cet aspect où lui, il sera là de A à Z, alors que si vraiment on se dit que l'influenceur, lui, il va être présent juste pour faire sa petite vidéo, il n'y aura pas de conception créative derrière et il va dire « Ok, tiens, c'est bon, j'ai fait mon post, je te l'envoie, tu valides, ok, c'est bon, je publie demain. »
Oui, il n'y a pas forcément de talent, tu veux dire, derrière.
C'est ça.
Exactement. Et je me permets de rebondir là-dessus, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui voient le média, enfin, l'influence comme un média. C'est-à-dire que tu vas plus aller en agence média pour aller toucher des cibles, tu vas aller voir un créateur de contenu et tu vas seulement regarder ses statistiques de nombre de vues et d'audience. Parce que c'est l'homme sandwich 3.0. Donc c'est intéressant, en effet. C'est bien de voir ça comme un média. Là où le créateur de contenu, il est beaucoup plus humanisé. Tu vas aller chercher pour une expertise que tu ne vas pas chercher en média.
Oui, ok. Oui, je comprends. Oui, parce que c'est un média, pour le coup, très ciblé. Tu sais derrière que si c'est un influenceur voyage, bah, tu vas avoir tout plein de passionnés de voyage qui le suivent. Donc si tu veux faire la promotion de l'Ardèche, parce que tu bosses à l'office de tourisme de l'Ardèche, c'est super, on les embrasse.
Très belle région.
Bah voilà. Oui, très bien. Je vois bien. OK. Oui, mais bon, voilà. Après, ça reste quand même des influenceurs et des influenceuses parce que les plateformes, elles ne rémunèrent pas. C'est ce qu'on disait. Ou alors, ça rémunérait avant, j'ai l'impression. Non, puis ça ne rémunère plus. Enfin, sur YouTube et tout.
Il y a les créateurs librairies ou des programmes de créateurs.
Dire en partenariat avec YouTube, proposé par YouTube.
Tu vas avoir. Sur TikTok, il y a une version qui est en bêta aussi sur Insta. Mais en France, il y a eu des prémices, mais ça n'a pas trop fonctionné.
Ok.
Enfin, vraiment, après, c'est comme partout. Hein. Tu vas voir qu'il y a du business qui est intéressant. Donc, tu vas essayer de gratter comme tu peux. Sauf que les plateformes s'y sont essayées. Mais il se trouve que finalement, les créateurs n'arrivent pas non plus à s'y retrouver. C'est un peu complexe. Et puis, ça demande encore des abonnements de la part des utilisateurs. En gros, par exemple, si on reprend le cas de Léna, c'est de dire « Ah tiens, j'ai ouvert mon programme de créateur sur Insta. Venez me rejoindre, payez 20 € par mois et puis vous aurez des contenus exclusifs. » Mais ça se rajoute à ton abonnement Spotify, ton abonnement Netflix, enfin que sais-je. Et finalement, est-ce que tu as autant d'exclusivité et d'accès un peu... VIP, je suis pas persuadée.
Ouais.
Après, j'ai jamais testé, mais en tous les cas, c'est pas quelque chose qui a pris. Ça s'est vu un peu sur TikTok et encore, ils ont revu, je crois, à la hausse les modalités d'inscription pour les créateurs pour les aider.
Okay.
Ça a été un coup de com' pour TikTok aussi pour faire revenir les créateurs.
Ouais.
Parce que TikTok s'ouvre, en fait, c'est Instagram qui est hyper installé. On va parler du marché français pour être sur des bases qu'en tout cas, moi, je connais mieux. Tout le monde était sur Instagram. Comment tu fais venir les créateurs sur TikTok? Parce que TikTok, c'est un taf. Quand t'es créateur, il faut produire énormément. T'as de la production vidéo. Évidemment, maintenant, t'as un peu plus de statique, mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, eux, ils ont créé ce programme-là où ils ont dit, on va rémunérer tout le monde, on va leur donner plein d'argent. Et puis, à un moment, t'es obligé de revenir un petit peu en arrière. Tu peux pas rémunérer tout le monde,
Parce qu'en fait, même quand tu fais une vidéo sur TikTok qui marche bien, tu fais plein de vidéos qui marchent bien, tu peux pas te rémunérer.
Déjà, il faut que les vidéos fassent 1 minute.
Mmh. Ah ouais.
Donc là, c'est compliqué, parce que si t'es un créateur qui fait qu'un concept, on va sortir à brèche frère, comme ça c'est fait, on en parle plus après, qu'un concept qui dure 20 secondes, là, du coup, tu te fais pas rémunérer par la plateforme, tu vas te faire rémunérer seulement par du partenariat.
Plus d'une minute, ok.
Ils se disent, faut que tu restes le plus longtemps sur ma plateforme.
Et après, il y a le système de cadeaux donc, qui est arrivé sur TikTok et qui est beaucoup plus visible, qui était à la base plus visible en live. Et maintenant qu'on va retrouver aussi sur directement la vidéo, il y a un petit cadeau et ça te permet aux utilisateurs d'offrir des cadeaux aux créateurs de contenu.
Mais je veux dire, tu payes?
Tu payes.
Ouais, tu
comme Twitch,
alors. De l'argent.
Parce que Twitch, je me souviens, quand on avait fait, j'ai pas compris Twitch, eh bien, on peut en effet payer en live la personne qui est en train de streamer pour nous, quoi, pour la soutenir. Et donc là, c'est. Non, on peut faire pareil sur TikTok.
Même principe,
Okay.
Et t'as eu beaucoup de dérives, justement, de la part d'une audience beaucoup plus jeune, qui allait un peu chercher le portefeuille de papa-maman en disant « Hey, je vais prendre ta carte bancaire et puis je vais envoyer plein d'argent à mes créateurs parce que je les adore. » Donc les parents se retrouvent en disant « Ok, pourquoi je suis dans le rouge ?» TikTok.
Ah, la vache.
Et là où TikTok a été super fort, c'est que c'est pas seulement, tu viens pas seulement donner de l'argent, puis tu payes pas en euros. Tu payes en coins,
c'est leur monnaie virtuelle.
Oui, d'accord.
Et ça fait apparaître un petit filtre, donc c'est super drôle. T'envoies une fleur, il y a des fleurs qui arrivent sur l'écran. T'envoies un chapeau, le créateur a un chapeau. Mm. On se rend pas compte, d'accord, mais honnêtement, ça donne plus envie que juste on donne un sub.
En gros, ils vont créer de l'interaction avec justement les coins que tu vas envoyer.
Bon, du coup, la morale de cette histoire, c'est que, en fait, il faut pas en vouloir à nos créateurs et créatrices de contenu préférés. Et encore une fois, j'exclus un petit peu, et j'en suis désolée, mais les influenceurs et influenceuses de Dubaï qui sont juste bons à vivre et à dépenser de l'argent. Bon, voilà, j'exagère, mais c'est pas très grave. Parce que, donc, ces partenariats avec ces marques fait qu'en fait, ça permet aussi de les rémunérer pour tout le taf qu'ils produisent, et dont tu parlais juste là. Mmh. Et c'est vrai que c'est devenu un vrai métier, quoi, maintenant.
Ouais. En fait, il y a la partie, t'as un bout de l'iceberg, mais tu sais pas tout le travail et la conception qu'il y a derrière. Ouais. Et c'est pour ça qu'au départ, en fait, ce métier de créateur de contenu, ça paraissait un peu dérisoire. Je sais pas, pour les personnes journalistes, la télé, etc. Dire, mais attends, mais mec, t'es payé pour présenter des produits de beauté ou alors pour jouer aux jeux vidéo, voyager.
Ouais. Un bisou à Thierry Ardisson.
Clairement, ouais, on l'adore.
Oh la vache.
Et en fait...
Pendant ce cas-là, on envoie tous les cons, on n'a pas fini. Allez, Michel Sardou, c'est pour toi. Bisous, Gérard Depardieu, elle est bien. Ouais. Allez.
C'est clair. Et en fait, il y a eu ce côté où les gens se sont dit, mais non, en fait, créateur de contenu, c'est pas du tout un métier. Ça n'a aucun intérêt et il n'y a pas de travail derrière tout ça. Alors que tu le vois maintenant, il y a vraiment une vision créative qui est faite. Alors certes, ça reste encore du divertissement, mais on a un peu besoin de divertissement, de rigoler ou juste de changer un peu les idées de temps en temps.
Et encore du divertissement, il y a aussi... voyage, c'est vrai que ça peut être du divertissement, mais de la vulgarisation scientifique, des choses comme ça qui ne sont pas forcément que du divertissement. Et c'est vrai que c'est un taf de pédagogie et tout ça qui est énorme. Et moi, je me souviens, j'ai un influenceur voyage en tête où on a l'impression qu'il est tout seul et en fait il est toujours accompagné de quelqu'un et on s'en rend pas compte, quoi. Qui filme, qui monte derrière les vidéos et tout. Et en fait... et parce que avec le temps, il a pu se permettre de. Mais au début, il était tout seul, il a dû bosser beaucoup. Et puis maintenant, il est obligé même d'être aidé parce que sinon, il s'en sortirait pas tellement il a de taf, quoi. Mais c'est vrai que c'est un taf énorme, quoi. Après, voilà, c'est un taf chouette. Mais
oui. Pour continuer sur le voyage, c'est le routard là qui vient d'embaucher une influenceuse, une créatrice de contenu, Luciole. Et elle va être en charge de voyager partout dans le monde pour créer du contenu pour le routard. Et c'est hyper intéressant de voir que peut-être qu'à la base, il l'aurait pris pour une vidéo en disant « Bon, tu pars en Thaïlande, tu nous fais un contenu. » Et là, ça, c'est devenu le visage de la marque Le Routard.
D'accord, ouais.
Et c'est venu rajeunir totalement la marque. Mmh. Et pour eux, c'est hyper impactant parce que ça veut dire qu'ils ont compris qu'en face, il y avait une audience à aller chercher et comment ils vont aller la chercher, pas seulement en faisant du média, mais en utilisant la communauté et aussi la fraîcheur de cette personne pour faire du contenu. Évidemment, elle n'est pas toute seule.
Oui,
il y a le routard qui l'accompagne sur toute la route. C'est vraiment fort.
Sur toute la route. Mmh.
Ouais.
Mais tu as eu une véritable évolution et je pense que c'est à partir de 2015-2016 où il y a eu vraiment l'essor de tout le YouTube game, donc ça va être les Squeezie, Natou, etc. Où finalement tu as tous les commerciaux qui sont arrivés en disant il y a un business là.
Ouais.
Et ils voyaient que de la renta, donc ils proposaient partenariat sur partenariat. Sauf que à cette époque-là, il n'y avait pas du tout de structuration au niveau de ce métier d'influenceur. Et donc les créateurs se sont dit ok, je vais prendre ce partenariat, mais finalement au profit de la vision créative qui était totalement mise de côté.
Ouais.
Et c'est ça qui ont fait que t'en as certains qui sont soit partis en burn-out ou alors ont fait clairement des partenariats qui n'avaient aucun rapport avec leur ligne éditoriale.
Ce qu'on voit moins, je trouve, maintenant, quand même, en effet, comme tu
dis. Parce que t'as eu une structuration, une professionnalisation.
Ouais.
Et il y a des personnes qui se sont dit vraiment, en fait, comme le disait Sophie juste avant, c'est le routard s'est dit « Ok, en fait, je vais pas l'utiliser juste parce qu'elle a sa communauté et qu'on va avoir une force de frappe en termes de visibilité qui va être hyper importante pour nous. Et puis, ça va nous faire gaper sur les réseaux.
Ouais.
C'est d'utiliser aussi sa vision et son concept comme si bah, c'était, je sais pas, une DA ou DC à part entière de leur entreprise.
Et du coup, vous, pour des marques, donc vous proposez parfois des influenceurs ou des influenceuses, des créateurs, des créatrices de contenu. Et comment ça se passe? Comment ça marche?
Alors, ça va dépendre de la demande initiale, hein, parce que chaque demande est très particulière. On peut avoir sur une grosse OP besoin d'un créateur ou d'une créatrice de contenu ou d'un influenceur ou d'une influenceuse. Et là, c'est à nous de faire un screening, de faire une recherche de créateurs qui soit hyper poussée, d'aller chercher aussi dans l'ADN du créateur qu'elle soit en phase avec celle de la marque.
Ouais.
C'est hyper important. Mmh. Là où, en effet, il y a peut-être 10 ans, on s'en foutait, on allait chercher, ouais, on allait chercher de l'audience.
Quelqu'un qui a de la communauté, quoi. Et puis voilà, ouais.
Et là, on peut plus faire ça, parce que les marques ont besoin de construire aussi des discours qui sont hyper cohérents avec leurs audiences, avec des gens qui veulent toucher. Et si tu prends le mauvais créateur, ça peut détruire très rapidement ton image de marque. Donc, il faut aller voir ce qu'ils ont fait avant, les partenariats qu'ils ont aussi en même temps.
Ah oui, pour être sûr aussi qu'il n'y a pas... Ouais.
Et aller chercher des fois l'exclusivité aussi. Et parfois, c'est plus simple, parce qu'on a une idée avec un créateur... Et ça peut être aussi une bonne manière d'aller voir des marques, de leur dire, bah, nous, on a vu cette personne-là qui est hyper intéressante, qui a une vraie capacité et un vrai savoir-faire. Et on trouve qu'elle est en phase avec la marque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne?
Et il y a des outils pour vous aider à les trouver, ou c'est vous, à la mano, qui allez parcourir les pages Insta, Facebook, j'allais dire, à l'ancienne, oh waouh, la meuf, Insta, TikTok, Twitch et tout.
Bien évidemment, oui, maintenant, tu as des outils qui te permettent justement d'aller sourcer via des filtres. Si tu veux du sport, si tu veux du gaming, si tu veux de la beauté, tu peux aller justement chercher tous ces créateurs et même aussi en fonction de la typologie, si c'est un plus petit comme des nanos ou micros, etc. Pour t'aider aussi dans tes campagnes. Après, c'est sûr que c'est toujours intéressant de le faire à la mano. Enfin, moi, je sais que j'adore. C'est juste que si tu as besoin un peu d'être rapide et de simplifier ta recherche, tu vas passer par l'outil.
Okay.
Mais comme on baigne un peu dans le SOMI au quotidien, forcément, on a tous un peu nos créateurs de prédilection où on a entendu telle ou telle personne qui commence à émerger. Donc forcément, on va faire aussi, nous, nos propositions et on se fait des petits brainstorms avec l'équipe. Pour dire, ah tiens, nous on recherche tel ou tel profil, est-ce que vous en avez en tête ou pas?
Et l'avantage de la professionnalisation aussi du métier, c'est que en tant que social media manager, en tant que community manager, mais en tant que chef de projet, on a tous déjà travaillé avec des créateurs. Quand on travaille dans le social media, même au-delà du social media, honnêtement, on a tous des histoires aujourd'hui de créateurs de contenu qu'on a pu rencontrer, d'histoires qui sont quasiment toutes hyper positives en vrai, parce qu'on a des fois ce regard où on dit que c'est pas bien, mais en vrai, ça se passe généralement très bien. Et donc, ça permet de nourrir aussi les échanges en interne sur, ah bah, t'as déjà bossé avec cette personne, qui connaît cette personne, et de faire finalement un screening qui est beaucoup plus rapide que parfois sur des plateformes où on ne sait pas à qui on parle.
Ou avec, typiquement, nous, on collabore beaucoup avec des agences qui sont spécialisées aussi dans l'influence, les créateurs de contenu. Donc, ils vont nous envoyer leur talent book assez régulièrement.
Qui sont des agents comme un peu avec les comédiens, comédiennes, mais pour les...
Exactement. Okay. Et ils vont nous dire, coucou les gars, on a recruté des nouveaux talents. Si jamais vous avez besoin, bah, vous savez où nous trouver, un petit mail et puis on s'en parle.
Ok. Et il y a des... Parce que vous disiez, oui, on va les chercher en fonction de ce qu'ils font et tout ça, et de ce qu'elles font. Est-ce qu'on voit quand même des tendances communes chez les influenceurs ou les créateurs, créatrices de contenu? Après, j'imagine, là, tout le monde s'est un peu mis au TikTok style. Et du coup, c'est marrant ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure sur le fait que TikTok est arrivé en disant comment est-ce qu'on peut concurrencer Instagram. Et mine de rien, maintenant, ce qu'on voit un peu dans les Reels... Enfin, les Reels, c'était un peu du TikTok. Et du coup, on voit les TikTok qui vont sur Instagram. Enfin, bref, c'est un vaste communicant, finalement.
Exactement.
Voilà. Mais je sais pas s'il y a un peu des tendances dans l'influence, entre guillemets. Enfin...
Ouais, j'ai une tendance. Je sais qu'on n'en aura pas les mêmes avec Julia parce qu'en vrai, on n'a pas non plus les mêmes clients et on n'a pas non plus. Enfin, tout le monde a une vision aussi de l'influence qui est très différente. Et moi, je trouve que la tendance de l'UGC, elle est très intéressante.
Donc, UGC, c'est User-Generated Content.
Exactement. Mmh. Qui n'est pas pour toutes les marques. C'est important de le dire aussi. Toutes les marques ne peuvent pas se positionner sur certaines tendances. Mais l'UGC, ça va permettre à une marque qui a des produits, généralement des produits physiques à vendre, de faire de la création de contenu hyper rapide, hyper agile, dans un temps donné aussi très court. Et qui permet d'aller chercher justement des créateurs de contenu qui sont spécialisés là-dedans, de leur dire « moi j'ai une brosse à dents à vendre et j'ai besoin de 10 vidéos ». Et avec ces, enfin, on va du coup demander aux créateurs, pardon, de créer un début de vidéo, un milieu de vidéo et plusieurs fins de vidéo qu'on va venir réagencer après directement in-house à l'agence pour créer plein de petites capsules. D'accord. Qu'on va diffuser partout. On vient pas du tout chercher le créateur pour sa capacité à avoir de l'audience. Ça, on en a rien à faire. On va chercher des gens qui ont une capacité à créer du contenu facilement. Et pour moi, c'est une tendance qui est hyper importante parce que elle enlève toute la partie production aussi, des fois chez l'agence, pour revenir à une autre base, une manière de créer du contenu. Donc c'est une tendance à garder en tête qui il y a quelques années en agence, c'était plus le snack content.
Oui, exactement.
Et là, on fait maintenant créer ça de manière un peu moins chère par des créateurs de contenu.
Et est-ce que c'est pas aussi lié à une tendance aussi, enfin on n'arrête pas de dire le mot tendance, mais un peu truc homemade quoi. Genre tu vois, si j'ai l'impression que si ça vient d'une marque, oh ça me fait chier, j'ai pas envie de regarder. Alors que si en fait parfois moi sur TikTok, à cause de vous ça, j'y vais une fois de temps en temps, j'avoue, je tombe dedans, et ben je me fais avoir et tu sais je suis un peu genre oh non c'était une marque, tu vois, où tu te rends pas compte forcément tout de suite que c'est écrit sponsorisé ou je sais plus comment ils font. Et d'ailleurs, on est obligé de le mettre maintenant.
Oui, c'est obligatoire.
C'est en France juste ou c'est partout? Je sais pas.
C'est alors en France, ça c'est sûr et certain. Il y a justement la législation qui est en train de s'étendre en Europe, mais il y a encore beaucoup beaucoup de discussions pour que justement il y ait une homogénéité qui soit visible en Europe.
Ok, pour ce truc de partenariat rémunéré et tout. C'est drôle parce que maintenant, même quand tu suis des gens qui ont justement de l'influence et qui ont vraiment aimé quelque chose mais qui n'ont pas été payés, se sentent vraiment obligés de dire « ce n'est pas un partenariat, j'ai vraiment beaucoup aimé cet endroit et tout, machin ». Enfin, il y a vraiment un truc...
C'est parce que c'est obligatoire et qu'il y a trop trop de consommateurs qui se sont fait avoir.
Ouais.
Donc, t'es dans l'obligation, sinon après tu vas te faire toper.
Ouais, parce que dans toutes mes recherches, je suis tombée aussi sur les influenceurs arnaqueurs. Et tout.
Les influx voleurs.
Ah, c'est ça, waouh! C'était en cœur. C'est quoi les influx voleurs? C'est vraiment, c'est un vrai truc?
Si tu veux, on peut demander à Booba de me dire.
Ah, waouh! Lui qui a fait ça, tout un truc. Oh la vache, moi je suis vraiment perdue là-dedans. Ok, oui, donc forcément, je sais même plus de quoi on parlait avant, mais ouais, on a un peu dérivé, mais c'est pas très grave. Et il y a d'autres trucs un peu de manière légale d'ailleurs qui entourent un peu. Est-ce qu'on a le droit de faire de l'influence auprès des mineurs? Est-ce que donc on doit dire partenariat rémunéré? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que
partenariat rémunéré, collaboration commerciale, c'est obligé. Utiliser le plus souvent toutes les features que tu vois sur les plateformes,
c'est-à-dire
qui t'indiquent directement. En gros, sur Insta, tu peux avoir la notion de partenariat rémunéré, mais il faut l'ajouter aussi en caption, il faut l'ajouter tout au long de ta vidéo aussi.
Okay.
Si tu utilises des filtres, il faut le mentionner. Si tu utilises l'IA, il faut le mentionner. Et après, pas le droit à de la promotion de chirurgie esthétique, jeu d'argent.
Pas le droit. Ok, ouais, oui, ok. Mm-hmm. Ouais. Et il y a des trucs un peu plus écologiques, entre guillemets, genre pas le droit de faire de la promotion de produits Shein, je dis n'importe quoi, ou là, peut-être vous pensez
maintenant,
qu'on va y venir.
Maintenant, oui, il y a eu un recours qui est tombé, je crois, hier ou avant-hier, où justement, les créateurs de contenu n'ont plus le droit de promouvoir de la fast fashion.
Ah, ça y est, ok, ouais. D'accord. Ok, ok. Mm-hmm. Ce qui n'est pas plus mal pour
l'info. Enfin, ouais.
Enfin,
clairement.
Ouais. Ouais, trop bien. Et attendez, c'était quoi ma question d'avant? Je sais plus.
Les tendances. Moi, j'ai donné la mienne. Mais...
Ah, vas-y. Mais toi, Julia.
Pas nécessairement une tendance. C'est plus un profil qui s'est détaché et qui a fait que c'est devenu une tendance parce que toutes les marques se sont arrachées cette personne-là.
Tu vas parler d'Avrèche Frère, toi?
Non, je vais parler de Origifool.
Oh waouh, je sais pas qui c'est.
C'est un artiste et en fait, il arrive à créer des vidéos hyper réalistes. Je pourrais pas vous expliquer comment il fait, mais typiquement, il y a cet exemple, les premiers, je crois que c'était Je m'aime Maybelline.
Mm-hmm. Okay.
Où, dans un train, tu vois un train londonien qui passe et t'as le nouveau mascara, je crois que c'est Sky High, qui sortait. Et en gros, il a réussi à créer en fait une paire de cils au-dessus du métro.
Trop bien.
Avec le mascara qui pendait et qui arrivait justement pour allonger les cils. Et t'as un effet d'optique en fait qui est hyper intéressant. Toutes les marques après font appel à lui pour justement...
Il fait de la 3D, en fait, quoi.
Ouais, et t'as Jacques Mus, où tu voyais tous les sacs passer dans les rues de Paris, mais en format de 5 mètres.
Ouais.
Et il a eu un succès phénoménal.
Je suis en train de regarder en même temps, c'est impressionnant.
Ouais. Très impressionnant. Ouais. C'est du fake out of home.
C'est
ça. F-O-H. Ouais,
c'est fake out of home.
Exactement.
C'est vrai, ça s'appelle vraiment comme ça.
Ouais, ouais.
Waouh. Fake out of home, ok. C'est vrai que c'est impressionnant, je vous invite à aller voir si vous écoutez en même temps. Vous pouvez ouvrir Instagram et taper Origiful, O-R-I-G-I-F-U-L, voilà, très chouette. Et donc ça a cartonné, tu dis
ouais.
Ok, trop bien.
Ah, c'est si bien que je crois qu'il a même décidé, je crois, d'arrêter sa carrière.
Une petite pause, tout à fait,
ah ouais
le temps de
rester déjà...
créatif.
C'est ah ça. Oui, pour rester créatif ouais. Et pas... Bah, c'est comme moi, un créateur de contenu que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il fait des partenariats avec des marques, mais c'est Pablo Rocha. Vous voyez, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais Pablo Rocha, pareil, il fait plein de contenu vraiment marrant. Il en fait très peu avec des marques, je crois, ou alors je me fais vraiment avoir à chaque fois, mais.
Mais voilà. Regarde okay. Les mentions.
Ouais, ouais, regardez les mentions. Donc ça, c'était plutôt côté tendance, entre guillemets, et pas. Et le truc que tu disais, le fake out of home, on peut dire que c'est une tendance.
C'est vraiment une tendance.
Mmh. Ouais.
C'est arrivé en août dernier et.
Avec l'IA et tout, tu veux dire, avec. C'est un peu lié à ça ou pas?
Ça va devenir lié à ça, parce que le fake out of home, c'est un travail de longue haleine. Ouais, aujourd'hui, la 3D, c'est un travail très compliqué.
Ouais.
Et évidemment, l'IA va sûrement arriver pour aider les créateurs de contenu à pouvoir, toujours dans un souci, d'agilité, venir créer du contenu plus rapidement.
Ok. Ouais, parce qu'il y a aussi tout ce truc-là de... Oui, En effet, après, t'es obligé de le mentionner aussi, vous disiez maintenant, quand l'IA t'aide.
Oui.
D'ailleurs, on n'a pas trop de faux influenceurs, enfin, des influenceurs générés par l'intelligence artificielle et tout. Si, il y en a un peu ou pas du tout?
Lille Michela.
Mais ça, c'est une vraie dame ou elle n'existe pas?
Non, elle n'existe pas.
Elle n'existe pas. Oui, c'est ça, c'est une fausse madame.
C'est un mirage.
Exactement. Madame. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un mirage. Mais donc ça, c'est plutôt un truc culturel parce que j'avais vu qu'en Asie, par exemple, il y a beaucoup de faux influenceurs et tout.
Complètement.
Enfin, des influenceurs créés par l'IA vraiment de bout en bout, quoi. Donc on génère des fausses images, des peut-être fausses vidéos, même maintenant.
Oui, et puis là-bas, c'est même plus une tendance. Enfin, c'est un concept qu'ils utilisent depuis beaucoup d'années.
Ouais.
Y a des vrais créateurs virtuels qui sont là-bas. Et eux, en plus, ils capitalisent là-dessus parce que je pense qu'au niveau de la législation, c'est pas du tout comme en France, c'est pas aussi bien cadré. Et ils vont utiliser justement ces influenceurs virtuels. Je sais qu'il y a le jour des célibataires. Et en gros, c'est leur espèce de Black Friday. Donc pendant, je sais plus, quelques jours, t'as tous les gens qui sont là en train de vendre leurs produits, etc., en ligne.
Okay.
Et ils vont utiliser justement ces influenceurs virtuels pour remplacer les humains, pour faire encore plus de business. Dire genre, oui, non, mais toi, tu vas tourner toute la nuit et tu vas pouvoir me vendre encore plus de t-shirts.
Ah bah oui,
parce
qu'ils n'ont pas besoin de dormir.
Mais non.
Et ça, vous pensez que ça arrivera en France un jour? Vraiment?
Eh bien, c'est en France déjà. Là, il y a aujourd'hui BMW qui est pendant tout le mois de mars à la Défense avec Lille Michela et qui propose justement un dispositif hyper immersif où elle est présente et c'est comme si on rencontrait, on va renommer Elena, mais on vient vraiment à la rencontre de notre influenceuse virtuelle.
Ah ouais, je viens de regarder Lille Michela du coup. Mais bon, ça se voit que c'est une fausse personne.
Oui,
enfin, tu vois.
Mais t'es quand même obligé de storyteller, de lui créer un vrai compte. Quelle est ses potes, quelle est sa vie, quoi.
C'est fou.
Elle est devenue ambassadrice, justement, de BMW.
2,6 millions de followers. C'est marrant, elle fait des selfies avec des stars alors qu'elle n'existe pas.
Enfin, mm-hmm.
C'est très rigolo.
Elle a fait une opération avec Coach aussi, où elle est en face de Lil Six. Et c'est, ils sont
j'ai
tous
pas
les deux,
du tout compris cette phrase.
Elle a fait un partenariat du coup avec Coach, une marque random américaine. Et dans la com, à côté d'elle, tu retrouves Lil Six, le chanteur.
Ah d'accord.
Et ils sont voilà, comme s'ils étaient au café ensemble. Et en soi, c'est vrai que de loin, on s'est assez méprendre parce qu'en plus, on utilise aujourd'hui pas mal de filtres pour lisser nos peaux, même nous en tant qu'humains.
Ne faites pas ça.
Exactement, ne faites pas ça. Et donc, sur cette com, on a limite l'impression que tout le monde est faux. Alors que finalement, il n'y a qu'elle qui n'existe pas dans la réalité.
Et qui a créé cette madame?
Alors, Lille Michela, elle a été créée en 2016
okay.
Par deux Américains.
Ouais.
On a Trevor McFedries.
Trevor McFedries, ok.
Plus bel accent.
And
et Sarah Dekou. Et donc, c'est la première influenceuse virtuelle occidentale, mais qui a été créée du coup par deux Américains.
Okay.
Et au début, en fait, ils ont joué sur le fait qu'elle était réelle.
Créer un peu l'ambiguïté.
Ouais,
de...
c'est okay. ça. Et au final, elle a dû faire un post pour dire que c'était bien du fake et que c'était une influenceuse virtuelle.
Ok. Parce que c'est vrai que nous, quand j'ai regardé un peu ces photos-là, moi, on arrive quand même, nous, à dire que c'est une fausse personne. Mais moi, je pense qu'en effet, mes parents, ils voient des photos-là et tout, ils ne se disent pas que c'est une fausse personne. Je parle beaucoup de mes parents dans ce podcast, bonsoir.
On leur passe le bonjour. Voilà.
On leur fait des petits bisous.
Oui, non, c'est sûr qu'il faut faire ultra attention et que tout ce qu'on voit sur les réseaux, de toute façon, c'est... faut le prendre avec des pincettes et que tu peux avoir beaucoup, beaucoup de fakes. Et ouais. ça me fait penser aussi à un autre profil où, pour le coup, elle, t'as l'impression que c'est une personne réelle. Elle s'appelle Anne Cardi. Donc, okay. elle a vraiment son profil Instagram. Et elle, c'est une Instagrammeuse française et bretonne.
Ouais.
Et elle est là, justement, pour promouvoir la beauté de cette région. Donc, tu la vois, en fait, faire des posts sur Madame Loïc, c'est super bon, faut aller à la Pointe du Raz parce que c'est magnifique.
Ok.
Mais vraiment, là, pour le coup, il y a une ambiguïté parce que tu... Enfin, si t'as pas l'œil assez fin, tu peux te dire que c'est une vraie personne.
Et là, pourquoi ils font ça? Parce que ça coûte moins cher d'utiliser...
Ça coûte moins cher et tu as certaines agences qui ont vu qu'il y avait un taux d'engagement qui était un peu plus important.
Quand c'était une fausse personne?
Ouais.
Mais tu crois que vraiment les gens se rendent... Qu'est-ce qu'il y a, ça fait,
non, mais une fausse personne, ça n'a pas de passé. Une fausse personne, ça n'a pas de casserole. Une fausse personne, c'est disponible.
Ouais.
Tu ne la payes pas, la fausse personne.
Ouais.
Donc même si tu dois faire de la 3D, ce qui aujourd'hui est compliqué, hein, c'est-à-dire que c'est pas aussi facile qu'on aimerait le croire quand on le voit, mais il y a quand même pas mal de problèmes en moins. Et puis gérer une personne, c'est plus difficile que gérer un ordinateur.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Tu vas avoir
oui, t'as pas
moins
les...
de surprise de dire oh, est-ce qu'il ou elle a posté, est-ce que ça répond aux guidelines dont on s'était parlé dans le brief.
Oui, est-ce que si je lui mettais à l'hôtel, ça ira et qu'elle va pas demander à ce qu'il y ait des trucs comme machin. Oui, d'accord, ça sent. Mais bon, c'est un peu triste, tout, non? Qu'est-ce qu'on en pense?
Triste. Oui,
c'est hyper triste. Ouais.
C'est triste et puis c'est. Enfin. C'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est aussi la vision créative.
C'est ce que j'allais dire, oui, parce que là, du coup, c'est juste des influenceuses, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de création de contenu. Enfin, ou alors c'est les gens derrière, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont à l'origine de ces fausses personnes, ils vont se dire, ouais, mais quand même, attendez, nous, on réfléchit de ouf, on se fait des brainstorms. Oui, oui. En fait, la création, elle est chez ces gens-là, du coup, qui créent, en fait, la fausse vie de cette personne,
exactement.
Quoi.
Exactement. Oui. Ça doit être marrant, ça l'a dit. À ces créateurs 3D qui sont des génie, parce que pour arriver à créer ça, honnêtement, c'est un travail monstre derrière.
Et vous croyez qu'ils lui font un petit bag, un peu comme dans une série, comme quand on écrit une série ou un film ou un livre,
c'est un persona.
On va écrire, ouais, voilà, ça, un persona avec une life et tout machin.
Moi, je pense. Ouais, alors après, ça doit être peut-être très succinct, mais enfin, t'es obligé si tu veux un peu raconter.
Ouais.
En storyteller la chose et que t'embarques un peu les gens, j'imagine.
Ça se trouve, ils lui font même des projections, genre l'année prochaine, elle va quitter la personne avec qui elle est et tout, machin. Ça se trouve, il y a des trucs comme ça, quoi. Mais ça, de toute façon, tu parlais de l'ambiguïté qu'ils avaient laissée entre réel et fake. Aujourd'hui, avec les réglementations, en tout cas en France, ce serait plus possible.
Non,
dès le début, on verrait que c'est une fausse personne. Enfin, après, il faut lire les trucs et tout.
Et après, de toute façon... Je vais regarder quand même sur son profil, là, justement celle qui
promeut la Bretagne.
Voilà, bah tu vois, c'est écrit direct en bio, en fait.
Ah ouais, ouais. C'est écrit
et
quoi
en, dans sa bio.
Mais c'est écrit quoi?
Intelligence artificielle bretonne.
Intelligence artificielle bretonne. Oui, bah voilà, moi c'est voilà. Très clair, quoi.
Il y a pas de... Je sais. Mais j'espère que c'est le cas pour les autres. Mais enfin, vraiment, là, je retombe sur son feed. T'as l'impression vraiment que c'est une personne...
Tu peux redire son nom qu'on allait voir en même temps?
Anne Cardi.
C'est C-A-R-D-I?
Non, K.
Ah bah oui, à la Bretagne, ouais, quoi. Moi qui m'appelle Nolwenn Voyou, ouais. Quelle honte.
Je la vois, là, sur la plage, en train de ramasser des déchets. Elle a une conférence, enfin... Best life, quoi.
Ah oui, c'est Cardi. Ouais, K-E-R-D-I, ok.
Ouais.
Et oui, et tu disais pas de casserole et tout. Oui, et évidemment, elle est toute grande et toute mince et toute machin.
Bah oui.
Voilà, ce n'est pas la vraie vie non plus. Ça, hein. Faut se dire aussi ça hein, que ce qu'on voit sur les internets.
Mais un petit détour quand même sur une opération qui était hyper intéressante où ils ont créé une influenceuse virtuelle trisomique.
Oui.
Ah,
alors, il y a un penchant qui peut être négatif, c'est pourquoi ils n'ont pas pris une vraie personne trisomique.
Ouais, ouais,
voilà,
c'est ça.
On
bah,
le dit
toujours
quand même.
Ça, hein, de toute façon. Ouais.
Mais ils sont allés en quête d'une certaine diversité, même sur l'influence IA.
Mais oui, en effet, prenez des vrais gens, quoi. Enfin,
Je suis totalement d'accord.
Ouais. Pardon, je suis dans la spirale, je veux dire, avec Anne Kearney, là, qui est beaucoup trop jolie quand elle ramasse des poubelles, tu sais, elle ramasse des déchets, mais ça veut dire qu'ils ont même pas peut-être ramassé les déchets pour de vrai.
Mais oui, c'est ça qui est totalement risible, quoi.
Oh la vache. Et ça, est-ce qu'on pourrait parler de, enfin, je sais pas, vous vouliez dire d'autres choses sur ce côté-là, très intelligence artificielle et création de contenu, si c'est l'avenir un peu de l'influence,
Bah, encore une fois, on va réutiliser les mêmes mots, c'est que à voir si c'est véritablement une tendance. Coup de com', de quelle manière aussi l'IA va évoluer. Ouais. Est-ce que nous, en France, ça va prendre le pas ou non? J'en sais rien. Enfin, il y a eu des tests qui ont été faits avec Harvey le Renard et une campagne pour Monoprix, mais ça a fait un gros flop. Par contre, tu vas avoir tout le pan où justement l'IA va être utilisée par les créateurs de contenu, mais pour les aider justement au quotidien. Donc, on va pas avoir ce côté intelligence artificielle comme Anne Cardi.
Ouais.
C'est de se dire, bah voilà, je vais utiliser ChatGPT pour justement être beaucoup plus rapide dans l'exécution de mon script. Ou je vais utiliser Midjourney parce que ça va m'aider à faire mes miniatures sur YouTube. Ça a été le cas avec, je crois que c'est Cyrus North, où justement il faisait un épisode avec Socrate, c'était la face cachée, et il a dit qu'il avait utilisé...
Bah voilà, Socrate, on y revient.
Tu vois, la boucle est bouclée. Et il avait utilisé justement Midjourney pour générer sa miniature. Et tu le vois, hein, c'est hyper bien fait. Donc il y a ce côté où finalement, à chaque fois, tu vas pas te dire bah, « mon métier n'est pas mort », mais je vais voir comment ça va être une opportunité pour moi.
Et un autre point aussi, c'est l'aide de l'IA qui va pouvoir aider les marques à faire du service client. Alors ça peut paraître dérisoire, mais aujourd'hui, Meta a acheté les voix. Alors je dis acheter les voix, c'est très vulgarisé parce que je ne sais pas exactement comment ça s'est négocié, je n'étais pas autour de la table. Mais acheter la voix de Paris Hilton, par exemple. Et aujourd'hui, on peut parler à Paris Hilton via Meta lui demander plein d'informations. Et elle a donc un avatar généré. Et donc, sa voix appartient à une marque aujourd'hui pour lui faire dire un peu ce qu'on veut. En soi, Paris Hilton, c'est une influenceuse.
Ouais, c'est une des premières. Hein.
C'est vrai que c'était une des premières. Hein,
c'était ça,
le selfie.
Les toutes premières.
Nicole, Richie, tout ça.
Ah ouais, ça nous rajeunit pas, tout ça.
Donc c'est un pendant aussi. Alors c'est moins visuel, mais ça va arriver quand même assez rapidement dans nos feeds d'actualité, dans nos manières de communiquer avec les marques. Ça vient humaniser aussi d'une manière hyper, hyper forte une marque qui aujourd'hui peut paraître un peu loin. Et Camille, community manager pour toutes les marques, aujourd'hui c'est personne. Quand on doit répondre, on doit donner un nom et on en donne un parce qu'il faut bien trouver une manière d'humaniser. Et la voix, c'est hyper important.
Oui, bah, on le voit de plus en plus avec l'essor des notes vocales, des choses comme ça. Le fait que les marques essayent aussi de s'insérer sur WhatsApp parce que beaucoup d'échanges vocaux. Oui, donc voilà, toi tu vois aussi l'IA avec la voix demain qui pourra... Et ça aussi, quelle tristesse pour les métiers du doublage et tout ça. Mais bon, bref, là je dérive, mais voilà. Vous vouliez dire d'autres choses sur ce côté intelligence artificielle future de l'influence, de la création de contenu?
On a dit beaucoup le mot rapidité, agilité depuis tout à l'heure. Nous, on a une vision aussi agence-marque, donc qui est, il faut trouver un moyen d'être plus performant. Les créateurs de contenu Paya sont aussi très forts et ont quelque chose aussi. Ça se voit à une patte. La rapidité ne doit pas être au détriment d'une valeur ajoutée de la part d'une vraie personne.
Et on est d'accord que du coup maintenant, je veux dire en tant qu'agence, il est préférable de dire à un créateur ou une créatrice de contenu, voilà le produit à mettre en avant, et maintenant fais ta pâte, plutôt que voilà notre script et toi tu fais homme sandwich quoi.
Je pense
si tu fais appel à un créateur, une créatrice.
Pour moi, ça dépend déjà des premiers échanges que tu vas avoir avec le créateur. Tu vas sentir en fait direct si c'est une personne qui a besoin d'être un peu plus drivée,
ouais.
Parce que bah soit elle vient d'arriver dans le game de l'influence, on va dire. Ou alors si c'est vraiment une personne qui justement a déjà un peu fait ses armes,
oui, et a une patte, quoi. Enfin, je veux dire, Abrèche Frère par exemple, pour,
c'est ça en fait, c'est
si c'était que lui, bon bah tu vas pas lui imposer autre chose alors que son style, sa patte, c'était ça, quoi.
Mmh, exactement, ouais. Tu vas avoir deux cas de figure, c'est le fait de dire bah nous soit on arrive avec un concept créa mais on veut aussi avoir ta valeur ajoutée et ta vision créa. Ou alors, tu vas avoir aussi le cas de figure, te dire, bah, ok, toi, t'es ce profil-là, on sait que ça, tu le fais très bien, donc on te donne carte blanche. Ou encore une fois, donc du coup, trois cas de figure, c'est ouais. Le cas échéant où tu vas avoir ton script, où tu vas avoir la marque qui va être aussi assez stressée parce que c'est les premières fois qu'elle fait de l'influence, etc. Ouais. Et où tu
vas... Et qui a besoin d'être rassurée sur...
C'est ça.
Ouais.
Puis okay. T'as aussi des services ou des produits qui sont assez complexes. Nous, on a certains clients au sein de l'agence où tu vas devoir justement spécifier le service ou le produit. Il y a des choses à dire, à pas dire,
ouais.
Mais c'est justement à l'avantage des consommateurs. C'est pour qu'on reste transparent, en fait.
D'accord, ouais. Et il y a du manque de transparence, vous pensez, parfois, chez les influenceurs ou les créateurs de contenu. Est-ce que ça existe un peu de l'influence washing, entre guillemets, genre faire la promotion, j'imagine, puisqu'en fait, il y en a qui le font pour l'argent aussi et qui, du coup, vont faire la promotion de trucs dans lesquels ils ne croient pas forcément ou mal ou je ne sais pas quoi.
Exactement. Donc, on s'est déjà dit hein, que la marque avait une grosse responsabilité dans ouais. Le choix des créateurs, on s'en est déjà parlé. Maintenant, les créateurs aussi, il faut qu'il y ait une ambition de proposer des choses qui conviennent à leur valeur. Et sans donner de nom pour le moment, en tout cas, il y a les créateurs qui voient aussi l'argent, hein, parce que ça reste un métier. Donc, il faut manger à la fin du mois d'une certaine manière. Et donc, qui acceptent certains partenariats alors que c'est pas vraiment en phase avec qui ils sont. Et ça se voit vite. On est vite rattrapé par Internet. Internet voit tout et Internet n'oublie rien. Donc, quand on est une créatrice de contenu et qu'on parle body positif, qu'on crée une marque et qu'on ne vend pas plus que du 42, ça se voit.
Oh waouh,
et ça se voit fort. et donc, c'est compliqué après de revenir en arrière. Et on a beau essayer de faire une communication pour dire qu'on a fait une erreur, l'erreur elle est déjà faite.
Ouais.
Et ça se ferme beaucoup de portes. Donc, il y en a beaucoup hein, qui l'ont fait et qui le font encore. Donc, il faut être très, très vigilant sur ce qu'on voit passer.
Ouais. Et puis comme maintenant t'as toutes les notions vraiment de authenticité, transparence, mais aussi cette proximité que tu nourris avec ouais. Ta communauté, donc eux aussi attendent de la part du créateur ou de la créatrice que bah ils soient transparents et avec les partenariats qu'ils font et qui est justement ce côté respect des lignes édito et pas aller manger à tous les râteliers.
Ouais, ok. Oui, en fait, c'est ça, c'est après, t'as la pas du gain, quoi, j'imagine. Enfin, que ça soit pour les créateurs, les créatrices, les enfants, oui, même juste les célébrités. Quand je vois Sophie Marceau dans une pub Uber Eats,
bah,
je
me dis, bon, oui, bah voilà.
En fait, oui, c'est clair que même quand t'es comédienne, t'es obligée de tourner dans des pubs pour du fromage, parce que, en fait, juste le théâtre, ça paye pas, quoi. Bonsoir. Vous sentez un peu la rage.
Voilà. Et le washing, il est partout, ouais. Hein, quand ouais, on oui. voit Harry Styles aujourd'hui qui se fait accusé à tort ou à raison, je pense qu'on n'est pas là pour juger de ça, mais de pinkwashing parce que il en parle jamais, mais dans sa manière d'agir, il prône une ouverture d'esprit. En soi, là, il a un rôle d'influenceur au-delà du rôle de chanteur.
Ouais.
Et c'est l'internet a besoin de sa part d'une position. Et vu qu'il la prend pas, ouais, et ben c'est du pinkwashing.
Okay. Oui, après, ouais, c'est compliqué aussi.
C'est hyper compliqué, c'est pour ça, on n'est pas là pour dire oui ou non, ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est plus des faits aujourd'hui de ce qu'on peut voir sur Internet et à quel point ça peut vite s'emballer.
Enfin, tout s'emballe sur Internet.
Exactement.
Oui, et puis ouais. C'est toujours le cas de, à partir du moment où tu es une personnalité publique, ouais. Dans quelle mesure tu vas prendre la parole ou pas par rapport à un sujet qui peut être tabou ou délicat.
Oui, oui,
mais
oui,
ça, c'est encore un autre sujet et on n'est pas là oui. pour en débattre non plus.
J'ai pas compris Internet, ouais. Non, mais écoutez, on arrive à la fin, donc à moins que vous ayez des choses à ajouter, je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Alors, ce ne sera pas avec vous, ce sera avec d'autres gens tout aussi talentueux et pédagogues, puisque ce sera rien à voir, j'ai pas compris, le SEO. Voilà.
Ah bah j'ai un qui.
Ouais, non, bah, pareil.
Voilà, vous aurez plus qu'à écouter. En tout cas, on va pouvoir voir si le degré d'influence est fort, puisque on va voir si on a eu des bonnes notes après ce podcast. Voilà, comme ça, on va voir si on a réussi à influencer les gens. D'ici là, eh ben, je vous fais des bisous. Bisous.
Merci. À bientôt.
De quoi ? C'est pas très clair. Faire répéter l'action. Pardon.